On se dit que l'œuvre en elle-même est ce qu'elle est, elle existe, elle fait appel, elle se fait l'écho d'une théorie, de façon théorique, qui affirme, qui date d'Arrhenius, cette théorie de, donc, que la vie n'est pas, émergée sur Terre, mais qu'elle aura pu émerger sur d'autres corps célestes. Et que cette vie se serait transmise par l'intermédiaire des météorites. Les météorites, c'est ce qui tombe sur Terre, c'est un astéroïde. Quand c'est dans l'air, c'est un astéroïde. Quand c'est dans Terre, c'est une météorite. Et bien, par l'intermédiaire des comètes. Les comètes, c'est un peu plus compliqué, parce que les comètes sont des restes des cendres du système solaire, qui sont en organisation, et qui sont tombés très loin du Soleil, parce que c'est un corps placé. Donc, on va avoir intérêt à transporter de la vie, si comment, c'est pas la vie qui a pu se développer dessus. Donc, il faut faire elle-même ensemencée par autre chose. Donc, cette théorie a fait Flores au début du XXe siècle, qui est tombée un petit peu en disjonction de la panspermie, et puis elle revient en ce moment sous une autre forme qu'on appelle la lithopanspermie. Donc, c'est la transmission par des pierres, vraiment par des météorites, et là, c'est lié au fait que Mars, maintenant on sait que Mars a connu une période mi-gazeuse, et que nous, que nous avons sur Terre, des météorites martiennes. Il y a effectivement un échange, au moins dans un sens, entre le sol de Mars et la Terre. C'est pas miraculeux, hein, cet échange, c'est simplement des rochers. Des météorites, des gros cratères sur Mars, qui ont projeté à une vitesse suffisante des ventres de roches, et ces projections, ça fait que, à peu près 15 à 25 000 ans, elles sont tombées sur la Terre, plus de la Terre. Donc là, c'est pas. La vie, donc, le fait qu'il y ait des échanges de cailloux, c'est quelque chose de pas. Donc là, c'est. L'inverse est affirmé, moi ce que j'ai vu n'a pas convaincu, mais c'est qu'il y a peut-être des montres de Terre, des montres de Lune, qui sont tombées vers Mars. Mais c'est plus difficile parce que les faits sont tombés. Donc là, la vie de son frère, quelques mots, la vie de son. Ceci, cette métaphore-là, elle est effectivement, alors, manquer des éléments comme l'eau, on voit pas, on arrive sur un désert et de rien. Alors, c'est un peu ce qui a demandé aussi de ce type de science-fiction, pardon, où l'on voit des êtres qui, sans matière, transforment l'énergie bleue en nouvelle matière, ça devient trop différent, etc., sans aucun substrat. Mais voilà, ce film en lui-même est intéressant parce que c'est vraiment une métaphore, et pour moi, c'est justement que c'est eau. Parce qu'il n'y a pas de vie sans eau, il n'y a pas de jardin sans eau.
Peut-être que même les copiers, comme il est question de Goren, mais ça peut être intéressant. Oui, c'est une pièce.
Je pense que à sa simplicité, elle parlait d'une espèce de tentative de faire de l'art naïf à travers la vidéo, et je trouve même esthétiquement intéressant, même conceptuellement intéressant. Je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas parler de la vérité de ce que l'œuvre met à l'image. Mais il y a une chose d'un point de vue, je pense, conceptuel qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la provenance véritable de météorites, de pierres, ce que la durée de la panspermie, même historiquement, essaye de mettre ou cache, d'un point de vue conceptuel, c'est la volonté de ne pas reproduire cette culture qui a longtemps. Troubler la pensée, au moins un accident, entre ciel et terre. C'est-à-dire, au fond, la pensée thermique, c'est une manière aussi, peut-être naïve, mais de dire, même si, quelle habite, même si elle n'est qu'un faisceau terrestre, est d'origine céleste. Car si on accepte le les noyaux de la révolution copernicienne, c'est en fait qu'il n'y a pas véritablement de distinction entre ciel et terre, et la terre est un élément du ciel. Donc, au fond, on pourrait renverser cette théorie d'appartenance en disant que de toute manière, la terre a une origine, la vie a une origine céleste, car la terre n'est rien d'autre qu'un corps céleste, comme tous les autres. Là, peut-être, c'est ce qui pourrait être intéressant. Donc, ce que je vais retirer aussi de cette vidéo, il y a juste deux planètes qui s'équivalent et qu'il y a une transmission contagion de la vie. Et il y a une tentative aussi de ne pas reproduire ce préjugé théologique de l'unicité de l'espace terrestre dans l'infinité de l'univers, qui est un préjugé d'origine théologique. Et ensuite, bon, tu m'as provoqué sur la question de la graine, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Hélène avait dit, c'est-à-dire cette coïncidence, un peu l'écotage de l'image, parce que c'était l'animation codée, vidéo, et l'idée même de la graine, qui est de fait aujourd'hui considéré comme quelque chose qui est en nature de code, de calcul, et que, là je ne peux pas faire de scientifique, mais je fais l'historien de la philosophie. Ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que les concepts de gènes, les concepts modernes de gènes, répondent une ancienne idée d'origine spécienne, qui était une manière de contrecarrer le mythologème platonicien de la création, c'est-à-dire l'idée que la Terre a été créée par quelque chose, par un sujet qui est extérieur à la Terre, c'est l'idée du ouf, c'est le dieu du chrétien, et qui produit les mondes à partir de paradigmes, c'est-à-dire des idées, en infusant les idées, ces images dans la matière, contre cette idée qui est le schéma classique de la création qui présuppose la transcendance. Les stoïciens avaient introduit l'idée de, ils appelaient ça logos spermaticos, de la raison qui a la forme d'une graine, et l'idée c'était de pouvoir penser une espèce d'immanence radicale de la création, parce que la graine, d'un point de vue que des conceptuels, n'est rien d'autre qu'une espèce de raison immanente qui produit à partir d'elle-même, à elle-même, des phares, en fait. Donc c'est une espèce de coïncidence entre les débuts, l'idée, les modèles à travers lesquels les produits et les processus de production.
Voilà. Non, c'est parfait, parce qu'en fait, c'est déjà une description de la pièce de Cooper, qui est comment faire... la petite description, vision micro et macroscopique, c'est comment faire tenir ensemble le micro et le macro. C'était l'une des hypothèses que je m'étais noté comme ça, de sortie d'une vectorisation, enfin en tout cas d'une temporalité linéaire pour aller vers autre chose. Et alors, vous, monsieur Elabani, est-ce que vous n'avez pas pu voir
non,
très bien, donc ça c'est. Je pense que juste avec cette image, c'est trop abstrait parce que la vidéo est en effet très drôle aussi. Enfin, je ne sais pas si son auteur avait cette idée, je ne sais pas si c'est tout à fait volontaire, mais très amusante. Mais peut-être sur les quelques images que vous avez pu voir du film de Paragon, où là on est plus dans le minéral, et puis en fait, ce qui vient d'être dit.
Alors, moi je suis arrivé tout à l'heure. Hein. Je vais montrer une mission très terrienne. Hein. J'étais au Gabon, dans le terrain, là, et on a travaillé pendant ces 10 ans. Et donc je suis rentré hier soir, je suis réveillé. Donc je découvre, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de choses hein, depuis cette découverte, j'ai fait un moment en conférence, etc. Mais un exercice comme celui-là, jamais. Alors je le trouve très intéressant parce que j'apprends beaucoup. Et souvent, j'ai été interpellé par des philosophes ou des gens qui sont sur des disciplines où on est totalement parallèle, on a très rarement l'occasion de se croiser, et du coup, cette occasion est formidable. Et je croise mon voisin que j'ai vu en 2010,
enfin, il s'est rappelé de moi, puisque je viens de voir des faillots, et je trouve ça extraordinaire. Donc ça sert à ça, ce genre de réunion. Alors moi, je suis plus tard à faire, hein, mais je suis évidemment sensible à l'origine de la vie. Et donc, il y a toutes les hypothèses sur le, comment la vie est apparue sur Terre, et puis on va parler des articles, récemment, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, on fait reculer les curseurs, etc. Mais il reste toujours des questions ouvertes par rapport à les premiers chaînons en fait, organiques qui vont arriver. Il y a un article qui est sorti dans Science, je crois, les types niçoises, ils ont reproduit des expériences laboratoires sur des météorites qui sont des météorites de glace, des météorites qui contiennent des molécules organiques. Et puis, bon, ils ont réussi en fait, à les maintenir entre guillemets en vie. Et ils disent pourquoi pas, donc ils confirment en fait l'origine extraterrestre de la vie. Donc, ça, c'est-à-dire que moi, personnellement, moi, j'interviens, je dirais, en aval par rapport aux premières graines, puisque, quand je dis moi, c'est-à-dire l'histoire sur laquelle je travaille, parce que quand on arrive à 2 milliards, il y a derrière moi une organisation cellulaire déjà très sophistiquée par rapport à l'arrivage sur quoi cette hypothèse évidemment extraterrestre, et donc on voit déjà une complexité, une complexification, je sais pas si ça se dit, du système, et puis on rentre dans des cellulaires très 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 complexes. Donc moi, la première graine m'intéresse, mais il y a un autre stade qui va suivre, qui m'intéresse beaucoup, qui sera en lien avec l'oxygène, c'est à partir de quel moment on va sortir d'un stade unicellulaire bactérien pour aller vers le complexe multicellulaire. Donc ça va se faire d'une manière ou d'une autre, en lien avec l'atmosphère évidemment, et donc tout ça est lié, et donc la graine est importante pour moi, parce que je voudrais savoir à quel moment elle est arrivée et à quel moment tout ça s'est mis en place. Et comme ça me permet de regarder un petit peu la sémitique, c'est-à-dire le temps, l'intervalle de temps entre lequel on croit que cette matière organique primitive s'est mise en place, voilà, et puis le second stade où cette matière organique va devenir très complexe pour donner des organismes multicellulaires, etc. etc. Bon, vous la connaissez. Voilà. Donc désolé, je n'ai pas pu voir les trucs, mais non, je fais la philosophie à ma manière.
Est-ce que lui.
Je voudrais intervenir brièvement sur Alexandre Weinberg, journaliste scientifique. Juste une parenthèse, hein, pour un peu éclaircir le point de l'origine de la vie. Parce que si on dit que la vie vient d'ailleurs, ça ne fait que dépasser la question de l'origine. Et c'est une question toujours ouverte, effectivement. Est-ce qu'elle est née ailleurs, d'une part. S'il est né ailleurs, ça n'interdit pas qu'elle est née en même temps ici, sur Terre. S'il est né en un endroit sur Terre, ça n'interdit pas qu'elle soit née à plusieurs endroits et qu'il y en ait un qui est gagné, puisque le code génétique est unique. Donc, il n'y a qu'un seul monde vivant, mais il y en a peut-être une autre qui ont perdu la bataille. Mais donc, toutes ces questions sont ouvertes, mais ça n'empêche pas les chercheurs d'interroger ici, maintenant, la question de la naissance possible d'une vie à partir de matière inanimée, purement chimique. C'est-à-dire que, puisque l'une des caractéristiques de la vie, c'est quoi? C'est que la matière se maintient dans ses structures et se reproduit. Donc il y a également en chimie des recherches qui sont entamées depuis, je pense, 20-30 ans au moins, d'essayer de créer des réactions chimiques de molécules qui se s'automultiplient. Et c'est ma question que j'adresse aux deux scientifiques ici. Et qu'est-ce qu'il en est de cette recherche-là? Et je pense que ce n'est pas qu'une réflexion scientifique qui fait cerise sur le gâteau pour les artistes. Je pense que ça nous concerne directement dans le questionnement qu'on a art et science. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu le début du catalogue, je suis tombé sur ce parallèle entre le travail de premier, là, Franz Kafka, en liaison avec des théoriciens de l'art qui disaient et nous ne voulons pas reproduire des formes de la nature, une forme de naturalisme, mais essayer de représenter les phénomènes sous-jacents qui sont ceux de l'évolution. Donc c'est une sorte de naturalisme abstrait. Donc c'est une théorie de l'art qui s'inscrit dans le mouvement évolutif de la vie. Et donc, puisque cette question est directement posée dans cette exposition, on peut reposer une question analogue, ce qui est celle précisément de l'origine de la vie au niveau purement matériel. Et encore pour donner une autre assise à ma question, si le travail de Emmanuel Ecoccia fait un décentrement de poursuit le décentrement de l'anthropocentrisme vers l'animalocentrisme, c'est un progrès. Nous ne voyons plus le monde du point de vue de l'homme, mais de l'animal que nous sommes. C'est un élargissement de point de vue. Avec Emmanuel Ecoccia et d'autres chercheurs, on élargit le point de vue. Mais non, il n'y a pas que le point de vue de l'animal, il y a le point de vue du monde végétal. Pourquoi ne pas poursuivre le même mouvement et aller jusqu'au point de vue de la matière inanimée même, puisque de toute façon, la vie vient de la matière inanimée. Voilà. Donc ma question, je résume. Qu'en est-il des recherches, juste ça, sur la création de matière auto-reproductive. Et je m'impose donc à nos deux intervenants scientifiques, Michel Vizot et Monsieur Adé Rachat.
Bon, moi, je ne sais pas si je vais répondre. Je vais essayer d'être très bref. Je pense que c'est pas la vie, c'est faire plus de soi-même par soi-même. C'est du métabolisme. On n'est pas forcément avec un individu. Donc, c'est pour résumer, quand on est un individu, quand on est visible, on vit, quand on est vieux, on bosse. Donc, la première manifestation de la vie, si on ne sait pas la vie, la première manifestation de la vie, c'est de faire plus de soi-même par soi-même. C'est pas forcément quelque chose qui se fait dans une cellule, ça peut se faire dans une plaque, à partir d'un assemblage moléculaire qui est synthétisé par des mécanismes chimiques habituels, qui sont soit dans les